Alors, on va pouvoir commencer. Hein. Donc, je vais tout d'abord remercier l'accueil à la Friche hein, et puis de Chronique pour la co-organisation de cette journée d'accélération de l'IKR Lab, qui est la première journée d'accélération pour le secteur des arts visuels hein, et des arts numériques. Hein. Je vais revenir, moi, dans un premier temps, un petit peu sur le PEPR hein, pour donner les grandes lignes du programme. J'aurai peu de temps pour le faire, donc je vais aller à l'essentiel. Hein. Et on va procéder en trois temps. Donc moi, je vais revenir sur le programme général. Lila va présenter, elle, le secteur art visuel et art numérique plus précisément. Et Céline, elle, nous parlera de la collaboration avec Chronique et de comment on pense notre travail de manière collaborative. Et ensuite, nous aurons trois temps de table ronde animés par chacune d'entre nous, Lila et moi, et Ravira Tejerina qui est là. Et chacune vous présentera la thématique de sa table ronde. Nous avons des contraintes de temps, donc on va devoir tenir le temps, puisqu'en fait, il y a un autre événement à 16h30. Donc, il faudra que nous quittions les lieux à 16h15. Donc, je vais être le dragon du temps et je vais être très méchante avec mes collègues, mais nous allons être obligés. Alors, le PEPR ICAR. Cette journée donc, s'organise avec le secteur art visuel, hein, puisque le PEPR est composé de 10 secteurs, hein, chaque secteur représentant un domaine spécifique des industries culturelles et créatives, hein, le nôtre étant les arts visuels et les arts numériques. L'idée de cette journée, c'était de poser les bases d'une réflexion, d'un travail collaboratif et d'une dynamique collective que nous allons mettre en place. Et ensuite seront déclinées un ensemble de journées sur les 6 ans à venir, puisque le programme a une durée de 6 ans, hein, où on reviendra de manière beaucoup plus précise, détaillée et approfondie sur les pistes, les thématiques de recherche qui auront été abordées aujourd'hui. Pour comprendre le programme national de recherche sur les industries culturelles et créatives ICAR, il faut comprendre que c'est le volet recherche d'une stratégie nationale de développement et d'accélération du domaine sur les industries culturelles et créatives en général. Mais nous, c'est notre spécificité, et je pense que c'est important de le souligner à chaque fois, on est la recherche qui s'associe à ce domaine des industries culturelles et créatives. Et il ne s'agit pas seulement de produire des résultats de recherche d'un côté ou de financer des projets culturels ou des manifestations, expérimentations culturelles de l'autre, mais bien de travailler en synergie, en croisant nos mondes très ancrés sur les arts et la culture avec les opérateurs, les structures, mais aussi l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur la question. Donc nous sommes le volet recherche de la stratégie d'accélération. Le programme a été lancé en juin. On a 25 millions d'euros pour l'ensemble du programme. Et 6 ans devant nous pour développer des actions, des dispositifs et ce travail collaboratif dont je viens de parler. On est associé, c'est indiqué aussi dans cette petite fiche de présentation, qu'on voit pas très bien, j'en suis désolée, avec l'Equipex Continuum qui s'occupe de numérique, de plateforme, et l'IR Humanum en soutien aux activités que nous allons déployer. Les secteurs du PEPR ICAR sont les secteurs des industries culturelles et créatives, donc c'est aussi des éléments de langage qui changent aujourd'hui, mais globalement on couvre tous les domaines des arts et de la culture que vous voyez cités ici, hein. Art visuel, art numérique évidemment, art du spectacle, musique, etc. Je précise que comme j'ai peu de temps pour vous présenter, on pourra bien évidemment sur demande vous envoyer tous les documents et les éléments nécessaires pour mieux comprendre. L'objectif est vraiment de vous montrer un petit peu l'architecture et l'organisation globale. L'objectif donc c'est de travailler d'une manière collaborative avec la science et les mondes des arts et de la culture. Je passe un petit peu pour aller plus vite. Hein. Et on a ensuite hein, 3 étages, je dirais, de structuration. Le premier étage, c'est bien sûr les secteurs, avec cette particularité pour chaque secteur d'être co-coordonné hein, par des acteurs des mondes de l'enseignement supérieur, de la recherche, hein, des acteurs des industries culturelles et créatives, hein, mais aussi dans chaque secteur, on a le soutien de chercheurs spécialistes des sciences de l'informatique hein, pour le développement de plateformes, de sites, mais aussi le travail sur les données. Ça, c'est l'étage des secteurs, hein, qui est un des étages les plus importants. On a ensuite un autre étage qui est celui des grands projets. Donc, nous avons 6 grands projets. Pour en citer 2 et ne pas tous les citer, on peut citer celui Harmonie, où nos collègues sont là aujourd'hui et vont inaugurer leur projet très prochainement, on vous enverra aussi toutes les informations, hein, et qui porte sur le rapport à l'intelligence artificielle, le numérique, hein, et pour en citer un autre, Témis, oui c'est ça, sur les publics, oui, parce que comme il y a les six, je mélange pas, sur les publics, hein, et qui va s'interroger sur les questions de démocratisation, de public, de pratiques culturelles, et comment aller chercher les publics et les intéresser au milieu artistique et culturel, à la création contemporaine en général. L'organisation du PEPR, c'est aussi de proposer des axes transversaux sur des thématiques qui nous paraissent fondamentales et qui traversent pour le coup tous les projets et tous les secteurs. Donc là, pareil, j'en identifie seulement deux. Celle qui est portée par Lucie Marinier, qui est là aujourd'hui, hein, sur les questions de transition écologique et comment rendre aussi plus durable, hein, nos travaux, nos investigations, nos actions. Et l'autre que je porte sur la recherche-création, hein, comment faire en sorte que tout ce qui se passe autour de la recherche-création, des doctorats recherche et création, soit plus harmonisé, plus mis en visibilité, et notamment le lien entre les écoles des beaux-arts d'un côté et puis l'enseignement supérieur de l'autre. Nous avons chacun maintenant ses formations de troisième cycle, mais où on est pour l'instant un petit peu chacun dans ses positions et de son côté, avec certains projets qui sont très collaboratifs, mais il y a nécessité d'une harmonisation de ce point de vue-là. Ces axes transversaux, ces secteurs, ces grands projets, s'additionnent et se complètent avec un certain nombre d'outils et de dispositifs qui permettent d'accélérer et de développer notre domaine, mais surtout d'aller chercher des participations et des collaborations avec des appels à manifestations qui vont être divers. Donc là, on a lancé déjà nos premiers appels, appels à petits projets. Donc c'est des projets qui peuvent être financés jusqu'à 20 000 euros et qui reproduisent à chaque fois cette volonté d'avoir des acteurs artistes, des mondes artistiques et culturels, des chercheurs, et sur des projets qui sont des projets plutôt expérimentaux, innovants. Il ne s'agit pas d'aller financer une journée d'études, c'est fait par ailleurs. Nous, on fait des journées d'études qu'on appelle les journées d'accélération, ni d'aller financer des projets culturels, ce que je disais tout à l'heure, mais bien de mettre en place des collaborations innovantes, expérimentales, sur des sujets qui touchent aux industries culturelles et créatives. Autre type d'appels qui sont à destination plutôt des jeunes chercheurs, appels à contrats doctoraux et appels à aide aux doctorants en situation de doctorat, où là, l'aide vise à leur permettre d'avoir des financements pour développer, par exemple, une partie recherche-création, par exemple, une partie expérimentation. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour tenir le peu de temps que j'avais. Si je rajouterais qu'un appel à manifestation d'intérêt beaucoup plus large va être lancé, et que le fonctionnement qui a été choisi, par exemple pour les petits appels, c'est de faire quand même des dépôts de projets qui soient assez légers, avec deux échéances dans l'année, une première échéance le 31 janvier, une deuxième échéance mi-juillet. On peut proposer au fil de l'eau entre ces deux périodes, et les projets seront évalués par le comité de programmation du PEPR dans une session de printemps et dans une session d'automne. Donc ça permet vraiment de laisser aussi du temps pour répondre. Et autre élément qui va être inauguré très prochainement, c'est la plateforme Ariane, qui permettra de regrouper l'ensemble des membres du PEPR, que ce soit pour les secteurs, que ce soit pour les projets, et aussi de permettre à l'ensemble des chercheurs, mais aussi des acteurs des mondes artistiques et culturels, de s'inscrire au réseau et d'y participer. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je regarde Hyacinthe si elle ne me fait pas de grands signes pour me dire que j'ai oublié des choses, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour pour vous présenter globalement le PEPR. Et je vais passer la parole à Lila pour plus précisément le secteur des arts visuels.
Oui, moi je vais vous présenter en quelques minutes, pareil, 5 top chrono, je vais essayer qui on est, parce que le secteur des arts numériques rassemble des chercheurs, chercheuses et des professionnels du monde de l'art qui sont particulièrement complémentaires. Donc je vais décrire un peu qui le rassemble. Donc bah, Sylvia Girette, vous venez d'entendre, qui est professeure des universités, sociologue des arts et de la culture, qui apporte son expertise et sa méthodologie sur les questions de SHS, sciences humaines et sociales, qui est aussi, comme elle l'a mentionné, référente pour la recherche-création et qui nous aide à la réflexion sur ce champ qui est en structuration, mais on va y revenir notamment dans le premier temps de la table ronde. Céline Bertonieux, donc co-directrice de Chronique, qui elle nous apporte une perspective très située, ancrée dans l'écosystème régional, mais aussi national, voire international, on dira aussi deux mots. C'est la spécialiste et référente pour la partie art numérique pour notre secteur, et elle est aussi très active dans le réseau ACNUM, donc tu nous en parleras. Pour ma part, je suis artiste et chercheuse. J'ai soutenu une thèse de recherche-création il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, je suis principalement active dans les champs de la photographie et des sciences humaines et sociales. Et j'enseigne à l'École des Beaux-Arts de Nîmes les écritures visuelles de la recherche. Je vais vous parler également de deux de nos collaboratrices qui ne sont pas là, mais qui œuvrent à nos côtés pour le secteur, Isabelle Carlier et David Chomperlé. Isabelle est la directrice de l'École supérieure d'art d'Annecy-Alpes. Donc là, on a une perspective institutionnelle d'un établissement sous tutelle du ministère de la Culture, membre de l'ANDEA, qui est l'Association nationale des écoles d'art, voilà, qui va nous aider à réfléchir à la question de la professionnalisation, de la formation des artistes, avec un lien sur l'âge de création. Et David Chomperlé, qui est chercheur en sciences de l'informatique, dans un laboratoire qui travaille l'image et qui nous aide dans la première partie de ce projet à réfléchir à la manière dont on peut développer des outils de collaboration et de travail en commun, notamment à l'échelle nationale. Voilà, donc le pari d'Icare, c'est un peu de se dire que si on peut discuter et dialoguer à l'échelle de notre secteur avec à la fois des méthodes, des compétences, mais aussi peut-être des postures différentes, c'est qu'on peut le faire à l'échelle nationale et notamment pour être travailler collectivement face aux enjeux actuels et de demain autour de ce lien industrie culturelle et créative, et art visuel et art numérique. Peut-être juste vous dire très rapidement quelles ont été nos premières actions. Donc, assez vite, on s'est dit que c'était intéressant de cartographier l'existant, c'est-à-dire que nous sommes en train de recenser les réseaux, les festivals, les fédérations et les associations qui sont déjà bien implantées, bien structurées et actives, pour ne pas ajouter un énième acteur qui ne prendrait pas en considération ce qui existe déjà, mais plutôt de fédérer, de coordonner. C'est un travail assez gigantesque, mais grâce à la méthodologie SHS, on y arrive. Donc ça, c'est la première chose. Et notamment en partenariat avec Humanum, que tu as cité, Sylvia, pour vous donner des exemples à chaque fois assez concrets, on a entrepris de recenser l'ensemble des résidences d'artistes sur le territoire en travaillant sur le principe de la métadonnée, c'est-à-dire que en fait, vous aurez la possibilité sur des plateformes ensuite en ligne de pouvoir sélectionner une résidence d'artiste, pour quel médium, pour quel type d'artiste, homme, femme, âge, etc. Et donc voilà, on travaille à cela également. C'est aussi notre mission de centraliser, de donc soulever les questions de secteur en vous rassemblant comme aujourd'hui, et c'est ce qu'on fera pour les 6 prochaines années. Et enfin, et ça c'est important, impulser une dynamique vraiment collective et la plus ouverte et inclusive possible. Et du coup, je prends le temps de simplement vous dire que nous travaillons déjà actuellement à l'organisation de nos prochaines journées d'accélération qui s'intéresseront aux questions de soins en lien avec les arts visuels. J'en termine là.
Merci, merci à vous Lila et Sylvia d'abord de m'avoir donné la possibilité de participer à ce grand mouvement que le PEAR ICARE, dont j'espère on va commencer à comprendre les contours au fur et à mesure. Peut-être même qu'on va arriver à comprendre les contours de ce que sont les industries culturelles et créatives. Là, ce serait vraiment dingue. Et je vous le souhaite. Peut-être donner quelques éléments de compréhension. J'espère en tout cas, concernant donc Chronique. Chronique, c'est un opérateur de territoire et un producteur artistique. En réalité, c'est la réunion de deux associations qui existent depuis 25 ans sur le territoire Aix-Marseille. Deux associations, une basée à la Friche La Belle de Mai et une plutôt à Aix, qui se sont réunies à l'occasion et à la suite de Marseille-Provence, j'arrive jamais à dire tout le nom parce que le nom est Marseille-Provence, capitale européenne de la culture en 2013, merci Bénédicte. Adomédée, qui était un grand événement du territoire ex-Marseille, qui a généré une accélération, c'est un des mots de la journée, de la création artistique et du secteur culturel sur ce territoire. Et cette occasion-là, ces deux associations, Zinc, donc à la Friche la Belle de Mai et Seconde Nature à Aix, ont eu une proposition un peu en creux de fusionner, parce qu'on avait proposé pas mal de programmations ensemble. Et étant des acteurs déjà, même sans le savoir, probablement des industries culturelles et créatives, on a réfléchi à la fusion, on s'est dit mais on va perdre la moitié de notre budget si on fusionne. Ce à quoi les collectivités nous ont dit ouais, c'est probable. Et donc on a dit bon ben on va pas fusionner alors. Et on est parti dans une idée de dire chronique, ça va être 1 plus 1 égale 3. Je crois que le pari est quand même relativement réussi parce que l'autre élément de contexte par rapport à cette journée, c'est que ça nous a amené à pouvoir, en étant deux associations vraiment rapprochées dans le monde de l'entreprise ou de l'industrie, on parle de joint venture, ça nous a permis de développer, donc en ayant des phases de prototypage auparavant, la Biennale des imaginaires numériques, auquel vous assistez aujourd'hui, avec vous assistez à la clôture très exactement de la Biennale des imaginaires numériques, dont c'est la quatrième édition en 2024-2025. C'est un des événements vitrine des arts numériques en région, mais c'est aussi un des événements phares des arts numériques en France, je pense au contrôle de certaines personnes qui s'y connaissent. Mais cette vitrine, quand je parle de vitrine des arts numériques, c'est que c'est la possibilité, en ayant cette proposition qui réunit 100 000 personnes lors de la dernière édition de la Biennale des imaginaires numériques, sera probablement le cas aussi cette année. C'est également 23 créations. C'est 94 artistes présentés, pas que dans le champ des arts visuels, parce que c'est une des spécificités des arts numériques, c'est d'être un art qui est post-disciplinaire. Mais on s'était dit peut-être qu'à l'intro je parlais un peu de la question des arts numériques, mais peut-être que on en parlera peut-être plutôt sur la deuxième table ronde. Et la Biennale des imaginaires numériques, pour Chronix, c'est à la fois sa vitrine, mais c'est aussi un opérateur de territoire. Donc en fait, les créations artistiques, et notamment cette vingtaine de créations artistiques qui émergent pour la Biennale des imaginaires numériques, ça veut dire accompagner des artistes tout au long de l'année, à la fois des artistes locaux de notre territoire, mais aussi des artistes nationaux et internationaux qui s'inscrivent en effet à la fois dans le champ de la recherche création, mais aussi dans le champ de l'expérimentation, et c'est tout le temps, chaque jour, trouver les moyens pour que les artistes puissent produire, créer et montrer leurs œuvres. Donc voilà ce qui concerne Chronique et la Biennale des imaginaires numériques en quelques mots.
Merci.